Cette balado vous est présentée par Banque Nationale. Bienvenue dans l'espace balado de l'ADA. Je m'appelle Pierre-Alexandre Blouin et je serai votre animateur pour un autre portrait des détaillants. Aujourd'hui, on se rend sur le plateau Mont-Royal pour faire la rencontre d'Étienne Boiteau, copropriétaire de la fromagerie Bleu et Persillé. Donc aujourd'hui, on est à la rencontre d'un fromager marchand sur l'avenue Mont-Royal au Bleu et Persillé. Bonjour Étienne Boiteau.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais tout d'abord, pour situer les gens qui ne connaissent peut-être pas l'avenue Mont-Royal, expliquer quel est le commerce dans lequel on est aujourd'hui?
Oui, c'est Bleu et Persillé, qui est situé entre Fabre et Garnier sur l'avenue Mont-Royal. C'est une fromagerie, comptoir gourmand, comptoir de charcuterie, sandwicherie, une sorte de beaux produits de qualité qui sont vendus pignon sur rue sur l'avenue Mont-Royal. Ça a été fondé en 2015 par Franck Hainaut et Dany Thérien. Et puis depuis 3 mois maintenant, avec mon frère, on a repris le commerce et puis on continue les activités d'offrir des produits de qualité aux clients qui continuent de grandir, la clientèle qui continue de grandir.
Ouais. Donc, tu es donc une recrue dans l'industrie du détail alimentaire?
Oui, exactement. J'ai déjà été là-dedans quand j'étais étudiant, mais j'étais pas en poste de gestion, seulement un commis à la vente ou un crémier, je sais pas comment on appelle ce poste.
Ici même?
Ici, je l'ai été. J'ai été aussi brièvement à l'échoppe des fromages à Saint-Lambert. J'ai fait ici l'ouverture quand Franck était là. Moi, j'ai déménagé pas très loin du commerce, donc je suis venu voir Franck et je lui ai dit que je voulais travailler avec lui parce que j'aimais bien ce métier-là. Et puis après ça, ça m'a permis de rentrer dans l'industrie un peu puis de comprendre c'est quoi ce super métier qui est de vendre du fromage.
Donc, Bleu et Persillé, donc tu as travaillé ici pendant un certain temps. Ensuite, tu es parti faire différentes expériences dans le monde du fromage, c'est ce que je comprends?
Oui, exactement. Je suis parti de Bleu et Persillé pour continuer dans le domaine fromager, mais plus dans la production, parce que Franck m'avait permis de rencontrer des fromagers qui fabriquaient. Donc, je suis même allé faire des petits stages chez des fromagers. Je suis allé à la station. À Comptom, j'avais piqué ma tente en face de la fromagerie.
Ah oui?
Ouais. J'avais piqué ma tente, puis je suis allé le matin travailler avec Lionel, le fromager, voir c'était quoi la fabrication fromagère, de voir qu'on peut transformer un liquide qui est le lait dans différents types de fromages, amener des arômes, des couleurs, des textures différentes avec un seul liquide. Ça m'a passionné. C'est pour ça que je suis parti en France. Quelqu'un m'avait suggéré d'aller faire l'École nationale de l'industrie laitière, qui est une école qui est assez renommée dans le monde, dans le domaine fromager. Donc, je suis allé faire un an de formation là-bas en production fromagère, que ce soit apprendre la microbiologie, la physique, toute la chimie qui est reliée au fromage, vraiment d'aller dans le cœur du sujet. Après ça, j'ai travaillé en production, fait que j'ai vu c'était quoi produire le fromage, que ça soit devant un tunnel de lavage ou en arrière d'une cuve ou un peu partout. J'ai fait toute la chaîne, même livraison de lait. Puis après ça, je suis allé au Népal. J'avais un fromager, François Driard, qui m'avait invité à venir faire un stage. J'avais besoin de quelqu'un pour l'aider sur certains sujets. Donc je suis parti pendant 2 mois au Népal travailler avec Himalayan French Cheese. Ça a été une super belle expérience. Je suis même monté 3500 mètres d'altitude pour aller fabriquer un cheddar avec un vieux fromager.
Wow.
Qui faisait ça depuis des années. C'était vraiment rustique, il n'y a pas d'électricité. On faisait ça au feu de bois. On a fait un cheddar là-bas. Ensuite,
il n'y avait pas de permis C1, là.
Non, il n'y avait pas de permis. les gens arrivaient avec les chaudières de lait sur leur dos de yak. Les yak étaient assez spéciales, des animaux qui sont très sauvages. C'était difficile de les approcher. J'ai tenté le coup, je me suis fait charger.
Est-ce que tu as dû traire les yak aussi?
Non, ça okay. Justement, c'était impossible. Okay. C'est juste les bergers qui sont capables de les approcher. Puis c'est des animaux très rustiques. Puis ils donnent un lait qui est hallucinant. C'est un taux de matière grasse et protéines qui est super élevé, qui est plus élevé que la bufflone, donc un lait qui est très difficile à travailler, mais qui était le fun. Fait que ça a été une belle expérience, assez rustique au Népal. Puis après ça, je suis revenu au Québec, travailler pour le Centre d'expertise fromagère du Québec, une belle opportunité qui m'a été donnée par Mario, un ancien directeur, et puis travailler pendant 3 ans avec eux, à me déplacer à travers le Québec, aller chez les fromagers, les conseillers. Je suis allé un peu aussi en Ontario, même au Terre-Neuve pour aider un fromager là-bas. Donc, ça me déplaçait vraiment, voir toutes sortes de manières de faire, puis de différents types de fromages, puis de différents humains aussi, parce qu'en arrière du fromage, il y a eu l'humain. C'est ce qu'on essaie de repousser ici. C'est un peu les histoires de chacun des fromagers. Donc, ça m'a pris des connaître, de voir comment ils faisaient, leur philosophie. Il y a différents types de philosophie, que ce soit très industriel, à quelqu'un de très artisanal, dans le lait cru, dans le lait pasteurisé, dans le fromage fermier, fromage artisanal, différentes dynamiques qui se font dans l'industrie fromagère. Et après ça, j'ai travaillé plus en tant que commercial. Puis là, j'ai commencé à décoller un peu du fromage, de la passion que j'avais. Je commençais à être commercial. C'était quelque chose qui était intéressant, mais c'était plus de la vente. Donc là, je vendais des équipements, des bactéries, des ingrédients pour la transformation fromagère, pour l'Allemand, une compagnie canadienne, et puis pour Fromagex, un des piliers de tout ce qui est équipement puis fourniture pour la transformation.
Donc, si je comprends bien, la passion fromagère, tu t'éloignais tranquillement de ça.
Exact. J'étais de moins en moins en contact avec les humains, avec les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler en usine ou en production. Je suis rendu plus sur la route, soit derrière un écran, regarder des chiffres, relancer pour vendre des choses. Puis c'était loin de ce pourquoi j'étais rentré dans l'industrie. Et puis c'est ça, j'étais un peu déconnecté de ma passion. Puis là, un matin, en juin, je me suis levé et j'ai croisé Franck en allant chercher ma pinte de lait. Puis on a jasé, il m'a dit « je suis toujours en train de chercher quelqu'un pour prendre bleu et persil ». Puis là, j'ai fait ça pourrait être le fun, un retour aux sources, un petit 360 de carrière, puis retourner à la vente.
De stresser sur la main-d'œuvre, de stresser sur les besoins, l'approvisionnement.
Ouais, ouais.
Avoir des petits défis.
Avoir des défis, puis de retrouver aussi ce contact humain, d'être derrière un comptoir, puis de parler avec des gens, puis d'être passionné, puis de retrouver cette passion-là. Puis c'est ce que j'ai retrouvé ici en revenant derrière le comptoir, puis en travaillant avec des gens.
Donc si je comprends bien, t'as attrapé la passion du fromage.
Ouais.
Puis tu as décidé d'en faire une carrière, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Fromage, puis aussi des autres produits, parce que bien autour du fromage, il y a souvent la charcuterie qui vient avec, il y a des produits fins, d'épicerie, tout ça. Donc, j'en ai eu la piqûre, puis à chaque jour que je rentre ici, je découvre des nouveaux produits. Je travaille avec des gens qui sont passionnés aussi, qui amènent des nouveaux produits en boutique, avec qui on a tout le temps des discussions en arrière du comptoir. Donc, c'est vraiment ça. C'est pas juste de vendre puis d'aller chercher, mais c'est aussi de discuter de cette passion avec des passionnés. Puis c'est ce qu'on essaie d'inculquer ici chez Bleu Percé. C'est une culture de pas juste d'être un employé puis de vendre du fromage, mais d'être passionné de ce qu'on vend puis de pousser cette passion aux clients.
Donc, comme toi, comme fromager marchand, tu es constamment sur le plancher. On te voit, on peut venir te rencontrer.
Oui, je pense que c'est nécessaire d'être là sur le plancher, non seulement pour les clients, mais aussi pour les employés et les collaborateurs avec qui on travaille. Il faut qu'on soit présent et qu'on soit là à côté d'eux pour justement discuter de l'avenir, des objectifs de l'entreprise puis de promouvoir cette passion-là.
Donc, tu parlais aussi tout à l'heure que tu as un co-actionnaire avec toi qui a repris le magasin.
Exact.
Comment vous répartissez les responsabilités au sein de l'entreprise?
Ben, mon frère Pierre est pas vraiment dans le domaine alimentaire. Lui, il est plus dans l'immobilier. Je veux dire, il y a un petit côté plus business. C'est lui qui a fait HSC Montréal. Puis c'est plus un support au niveau administratif. Quand il y a des grosses décisions, des choses comme ça, je suis toujours en train de le consulter. Lui, il s'occupe de la comptabilité en arrière.
C'est important aussi.
Oui, c'est important d'avoir une deuxième voix en arrière pour dire est-ce que c'est vraiment ça que tu devrais dire? Comment est-ce qu'on devrait communiquer ça aux collaborateurs? Vers quelle direction on veut s'enligner pour tel type de projet, oui, on y va, non, on n'y va pas. C'est un bon petit cue que d'être tout seul là-dedans, c'est avoir quelqu'un à côté de toi qui est là pour te supporter. Ouais.
Est-ce que c'est ce que tu t'attendais à avoir? Donc, c'est exactement ce que tu pensais ou il y a des choses qui diffèrent par rapport à l'idéalisation que tu avais?
On se fait souvent un idéal de c'est quoi gérer une entreprise, mais c'est beaucoup de défis, c'est de travailler avec des gens puis de faire... d'essayer de merger toutes les idéaux de chacune des personnes puis de faire que les objectifs de l'entreprise aient un sens puis aussi une pression financière, une pression de travail, une charge de travail qui est beaucoup plus grande que ce à quoi j'étais habitué, de faire des 7 jours d'affilée, 8 jours d'affilée ou de un mois d'affilée en arrière du comptoir ou à travailler, c'est quelque chose que je m'attendais plus ou moins, mais c'est venu puis c'est aussi de recoller une équipe puis de former une équipe qui est là pour te supporter. Ça, on a réussi à le faire avec Pierre, puis là, on est bien seté pour le temps des fêtes. On a une équipe qui est puissante, puis qui a une bonne expérience, puis une passion aussi qui est là. C'est surtout ça, c'est la passion.
Donc ouais. Là, on approche, c'est ça, de la période des fêtes. Le magasin est rempli, c'est l'allégresse, tout va bien. T'as des produits chouchous que tu voudrais présenter, par exemple, aux auditeurs que tu devrais inviter les gens à déguster là, avec l'arrivée de la période des fêtes en famille?
Ah, c'est clair. Avec mes collègues, on a travaillé à chercher des produits d'exception. On essaie de sélectionner des fromages qu'on ne va pas retrouver nécessairement en épicerie ou dans d'autres commerces. Nos plus grands vendeurs en ce moment, où est-ce qu'on fait goûter puis que les gens sont « waouh, c'est tellement bon ça ». On a le brie Maison de la Truffe, qui est un brie fourré à la truffe et de la mascarpone, mais de la vraie truffe, pas d'arôme ajouté. Puis ça, c'est vraiment un petit spécial que les gens adorent et raffolent et vont en revenir. C'est très cher, mais c'est super bon. Ça vaut le prix qu'on paye pour. On a d'autres, un crémoso à la pistache, à la truffe aussi encore. La truffe est très présente pendant le temps des fêtes. C'est quelque chose de festif que les gens adorent. Puis on met ça de l'avant. Puis on a toutes sortes. On va avoir bientôt un plateau de Noël. Une sélection de fromages assez exclusif qu'on va pouvoir sélectionner. On va faire des petites boules aussi de chèvre qu'on va mettre dedans. Ça, on souhaite le faire découvrir aux gens puis le vendre aussi un peu en ligne.
Bleu et Persil a la chance d'être au cœur d'une avenue commerciale reconnue à l'échelle du Québec, même du Canada, l'avenue Mont-Royal. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu es impliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui est sur ton radar pour faire sortir Bleu et Persillé du lot dans l'avenue commerciale?
C'est sûr qu'on est privilégié d'être... moi, je trouve, sur l'avenue Mont-Royal, il y a une société de développement qui travaille à dynamiser l'avenue. Elle a très bien réussi avec l'avenue piétonne qui a lieu tout l'été. Il y a des réunions, ils consultent les commerçants, puis ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça a été ma première réunion il y a 3 semaines avec mon frère, on était allé à la cité, puis c'est le fun de pouvoir rencontrer d'autres commerçants, de parler des défis auxquels on est confrontés. C'est le fun d'avoir un support aussi d'une société de développement, fait que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Puis ils organisent toujours des petits concours. Là, en présentant pour Noël, ils font un concours pour les vitrines.
Est-ce que vous allez gagner? Non? Pas cette année?
Non, pas cette année. Ben, je ne sais pas encore, c'est pas encore commencé. Là, on n'a pas fini les décorations non plus. Là, j'ai commencé à le faire, mais il faut que je peaufine un peu ma décoration. On va essayer. Mais c'est sûr que la compétition se joue rude. Il y a des très belles vitrines partout sur Mont-Royal. Fait qu'on verra bien en janvier, une fois que le concours sera clos.
Souvent, on entend dire qu'il y a trop de compétition en alimentation. Est-ce que tu as cette vision-là ou toi, au contraire, tu te dis plus on est de joueurs, plus on attire les gens sur l'avenue Mont-Royal?
En tant que la compétition au niveau fromager?
En compétition en général, alimentaire, on s'entend, il y a plusieurs adresses alimentaires sur la rue. Là.
Ouais, ben, je pense justement, nous, Bleu et Persil, c'est distingué un peu par rapport à tout ce qui est épicerie. On offre des produits qui sont frais, qui sont à la coupe, qui sont personnalisés en fonction des volontés des clients. Fait que je pense pas qu'on est en compétition avec les épiceries, avec les autres commerces alimentaires qui vendent des produits un peu similaires aux nôtres. C'est sûr qu'il y a d'autres fromageries sur Mont-Royal qui vendent des produits qui ont un peu la même vocation que nous. Mais on essaie de se différencier par rapport au service à la clientèle qu'on va offrir aux clients, puis au type de produits qu'on va offrir. Mais je pense pas qu'il y a vraiment de compétition. Le marché est très large. Il y a du marché à aller chercher, que ça soit pas juste en boutique, mais à l'extérieur de la boutique, que ça soit par la vente de plateaux, le service traiteur, les ventes en ligne. Il y a toutes sortes de manières de se différencier, d'aller chercher ces marchés-là.
Étienne, tu es un jeune entrepreneur. Malgré tes 75 ans d'expérience que tu nous as décrit tantôt, là, est-ce que tu trouves que dans l'industrie, on vit un rajeunissement ou est-ce qu'on est un petit peu conservateur au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes dans le commerce alimentaire?
Non, je pense que quand j'ai assisté à la réunion justement de la Société de développement commercial de l'avenue, j'ai vu beaucoup plusieurs jeunes entrepreneurs. Par exemple, juste de l'autre côté de la rue, le Petit Paris, qui est notre fournisseur de baguettes, c'est deux jeunes frères, jeunes, ils ont mon âge, mais jeunes en termes d'entrepreneurs. C'est deux frères aussi. Je pense à Maison du Rôti aussi, c'est deux jeunes qui sont là. Je pense qu'il y a une relève qui est là, qui a envie de ces défis-là, puis de se lancer. Je pense pas que... C'est sûr, début, c'est sûr qu'il y a beaucoup de commerçants qui vieillissent. Il faut une relève qui soit présente, mais je pense qu'il ne faut pas que les jeunes aient peur de reprendre ça et de relever les défis. Là. C'est un métier qui est beau, qui est dynamique, qui est très prenant puis qui met beaucoup de pression, mais c'est très valorisant à la fin de la journée aussi. Là.
Donc, après quelques mois d'opération, tu ne regrettes pas le coup, puis on va te revoir encore dans les prochaines années?
Oui, c'est clair. Aucun regret. On va voir à la fin de l'année, genre de voir le bilan de l'année, mais je pense que ça va être positif. On est bien aligné. Pour le temps des fêtes, c'est sûr. Il y a des choses qu'on aurait aimé faire avant, mais vu qu'on est rentré trois mois avant le temps des fêtes, c'est un peu difficile de vouloir faire tous les objectifs, les idées qu'on avait. Mais l'année prochaine, ça va être encore une meilleure année. Ça.
Donc 2023, on gagne le concours de vitrine, on est un détaillant qui gagne des prix sur l'avenue, etc. C'est ça?
Exact, ouais. Puis qui sort de la boutique aussi, c'est ça. Qui soit plus présent, non seulement sur la rue de Montréal, mais qui soit sur le plateau, puis même à l'extérieur des frontières du plateau, là, qu'on offre une belle visibilité de Bleu et Percé.
Ben, Étienne, merci beaucoup de ta disponibilité.
Avec plaisir. Merci d'être venu. Ouais, merci.
Merci d'avoir été à l'écoute de ce portrait de détaillant. J'espère que vous avez apprécié. Pour tout commentaire ou plus d'informations sur l'ADA ou nos services, on vous donne rendez-vous sur nos plateformes sociales ou encore au adaq.qc.ca. À très bientôt. L'ADA tient à remercier son partenaire de diffusion, Banque nationale.